Donc, moi, je ne vais pas vous parler de mes citations. J'ai préféré dresser un état des lieux des pratiques non conventionnelles en matière de santé. Il se trouve qu'à l'individu, nous avons un regard transversal et une certaine expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait 5 ans que je suis à la Miséude. Et depuis mon arrivée à la Miséude, j'ai constaté la montée en puissance, la montée en charge des pratiques non conventionnelles. Il ne s'agit pas ici de dire que toutes les pratiques non conventionnelles sont dangereuses, mais entre 2010 et aujourd'hui, on est passé d'un mode, j'ai envie de dire, artisanal à un mode industriel. Puisqu'il y a de plus en plus d'ouvrages liés aux pratiques non conventionnelles, il y a de plus en plus de centres de formation aux pratiques non conventionnelles. Et ce qu'on constatait dans les établissements de santé, c'était un phénomène isolé. Madame, vous parliez des suicides dans les établissements de santé, moi je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas de chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiques non éprouvées, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet d'essais cliniques, qui ne sont pas éprouvées scientifiquement, dans les établissements de santé, ça pose un vrai problème. Alors, d'abord rappeler qu'en droit français, il n'y a pas de définition juridique de la secte. Secte, ça ne veut absolument rien dire en droit. Nous sommes un service, M. Pachot l'a rappelé, du Premier ministre. Nous sommes rattachés au cabinet du Premier ministre. Donc, on ne peut pas avancer des choses si ça ne sont pas étayées sur des choses juridiques. Et donc, en droit, il n'y a pas de définition de la secte. Je tiens également à dire que si vous êtes dans une secte, même s'il n'y a pas de définition, je veux dire, si vous êtes scientologue, si vous êtes témoin de Jéhovah, ben pour citer ce qui revient souvent dans l'imaginaire collectif, parce que quand on demande aux gens, pour vous, la semaine dernière, je suis intervenu dans un centre de formation des infirmiers, un IFSI, et j'ai posé la question aux étudiants de troisième année. Si je vous dis secte, ce que vous me dites, et souvent, les réponses qui revenaient, c'est l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah et les raéliens. C'est souvent ça. Mais c'est de moins en moins ça. Et la santé est devenue un terrain de, je veux dire, de, pas de jeu, mais un terrain favorable pour les mouvements sectaires. Donc, retenez juste qu'il n'y a pas de définition juridique de la secte, comme il n'y a pas de définition de la religion. Pourquoi il n'y a pas de définition de la religion? Parce que nous sommes dans un État laïque. Je rappelle la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905, c'est trois principes. Liberté de conscience. Ça, c'est pas moi. Donc, je continue, enfin, faites pas attention. Donc, trois principes de la laïcité et liberté de conscience. Si vous avez envie de croire que la Terre est plate et qu'il y a des martiens, c'est votre liberté la plus absolue. Liberté de culte, vous pratiquez le culte que vous voulez. Et puis, séparation des églises et de l'État. L'État ne reconnaît aucune religion, l'État ne finance pas les religions et ne se mêle pas de religion. Donc, il y a une stricte séparation. Ceci est conforme à la Constitution de 1958, mais également conforme aux grands principes de la République et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par contre, ce qui est condamnable, super. Ce qui est condamnable, c'est que c'est les agissements qui seraient attentatoires à la liberté ou qui seraient constitutifs d'un trouble à l'ordre public. Alors, c'est très très difficile à démontrer, hein. Enfin, le trouble à l'ordre public, il y a eu beaucoup de questions sur à partir de quel moment, qu'est-ce qu'on fait face à une organisation sectaire, etc. Sachez que nous, on fait beaucoup de signalements au procureur de la République, au parquet. Depuis le début de l'année, on a fait 14 signalements au parquet. Mais c'est très très difficile. Comment démontrer qu'une personne a perdu sa capacité de critique et son libre arbitre? Quand les victimes sont interrogées par les services de police, souvent elles disent « Mais moi, j'ai rien à reprocher à ce monsieur. Il me fait du bien, tout va bien, enfin, j'ai mon libre arbitre, je ne souffre pas de troubles psychiatriques, etc. etc. » Souvent, c'est une véritable frustration pour nous, les signalements sont classés sans suite. Parce que, encore une fois, c'est très très difficile de démontrer qu'il y a eu abus frauduleux d'état d'ignorance. Donc là, je cite la loi du 12 juin 2001, la loi Abou-Picard. Madame Picard, qui est présidente de l'UNAFI, ancienne députée, Monsieur Abou, qui est actuellement sénateur, donc sont à l'origine de cette loi. Mais les magistrats, souvent, et j'interviens à l'École nationale de la magistrature, souvent ce qu'on dit aux magistrats, c'est appuyez-vous sur des infractions de droit commun. Viol, détournement, escroquerie, c'est plus simple à démontrer que l'abus de faiblesse. C'est extrêmement difficile à démontrer, mais il y a quand même quelques condamnations qui s'appuient sur l'abus de faiblesse. Alors, l'individu, donc mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, interministérielle parce que vous avez des personnels de l'État qui sont mis à disposition par différents ministères, donc la santé, nous sommes deux conseillers de santé. Intérieur, nous avons un officier de police, un officier de gendarmerie, éducation nationale, justice. Et pourquoi? Parce que la question de la dérive sectaire est polyforme. C'est-à-dire que sur la santé, vous allez avoir des aspects qui touchent à la formation professionnelle, des aspects qui touchent aux impôts, des aspects qui touchent à la sécurité. Enfin voilà, c'est polyforme. Donc, Pierre Disco, médecin de formation, ancien parlementaire, un secrétaire général, là on a une secrétaire générale, 8 conseillers, donc 8 conseillers pour la France et département d'outre-mer. Et nous nous appuyons sur deux instances, le conseil d'orientation qui représente des parlementaires, les hauts fonctionnaires, les gens de la société civile, et donc c'est dans ce conseil d'orientation que nous allons retrouver les associations, UNAFI et le CCMM. Et également un comité exécutif qui, lui, va représenter les services de l'État, les différents ministères avec qui nous travaillons et qui sont un peu notre bras armé. Alors, les missions de l'individu. D'abord, observer le phénomène. L'observation du phénomène, par ce qui nous remonte du terrain, parce que nous envoie les services de renseignement territorial, des réunions en préfecture, le travail fait avec les associations, on s'appuie beaucoup sur les associations, nous permet de voir le changement ou les méthodes d'approche des mouvements sectaires. Et c'est ce qui nous permet justement, cette observation, de dire qu'aujourd'hui la santé est devenue le principal mode d'action des mouvements sectaires. Prévenir, donc, comment on prévient? D'abord par la publication de rapports. Chaque année, nous publions un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre dans lequel nous traitons un certain nombre de sujets ou de thématiques. Par la publication de guides. Le dernier guide à avoir été publié, c'est le guide santé et dérives sectaires. Et puis par la formation des agents publics, j'en ai parlé. Hein. Donc, nous intervenons dans les grandes écoles du service public. École de hautes études en santé publique, École nationale de la magistrature, les écoles de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. Aider, parce que nous recevons les victimes, c'est mes collègues du pôle sécurité qui reçoivent les victimes. Quand je dis victime, c'est souvent l'entourage, hein, parce que j'insiste, la victime, elle est dans un état de bien-être total. Et quand vous parlez à la victime en lui disant... tout à l'heure, il y avait une question sur, je crois, Monsieur Auffran, comment on fait pour... faire que... Voilà. D'abord, le premier conseil, c'est ce qu'on dit à l'entourage, ne parlez jamais de sexe. Ne dites jamais à la personne qu'elle a perdu son libre arbitre, qu'elle est à côté de la plaque, qu'elle s'est manipulée. Ça ne fait que renforcer. Pourquoi? Parce que quand on tombe dans une organisation sectaire, on tombe à un moment où il y a un décrochage. C'est-à-dire que vous êtes là, puis à un moment où vous décrochez pour X raisons, mal-être, perte d'emploi, période de deuil, vous vous interrogez sur votre vie, etc., etc. Puis, à un moment, c'est une rencontre entre vous et une organisation, sachant qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle les sergents recruteurs. C'est jamais direct, c'est jamais vous qui allez vers l'organisation sectaire, c'est l'organisation sectaire qui vient vers vous. Par les sergents recruteurs, c'est souvent, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait des miracles, je te conseille d'aller le voir. Ou tu ne vas pas bien, je vois que voilà, il se passe des choses dans ta vie. Moi, tu sais, j'ai rencontré un tel qui est thérapeute, franchement, il m'a remis sur pied, etc., etc. Et donc, cette rencontre, à un moment où vous êtes au creux de la vague, c'est là où le piège se referme. Et donc, il faut toujours insister sur le contact, l'échange, et puis revenir un peu au fond, enfin, ce qui a fait qu'on avait une bonne relation avec la personne, si c'est un conjoint, souvent dans ce qu'on observe, par exemple, par rapport au Reiki, je pense que tout le monde connaît le Reiki, c'est qu'il y a une explosion des séparations, des divorces. Et souvent, les maîtres Reiki, leur discours, il est très simple, si vous n'allez pas bien, c'est la faute au conjoint. C'est souvent ce qui revient. Et donc, on dit à la personne, essayez de mettre en avant des souvenirs communs, des choses positives de la vie antérieure. Surtout, n'allez pas à une confrontation avec le conjoint. Alors, des fois, ça marche, mais des fois, la personne, elle est tellement, moi, je parle de camisole psychique. Il y a la camisole physique, mais il y a aussi la camisole psychique. Donc, ça, c'est pour l'aide que nous apportons aux victimes. Et puis, la coordination, c'est notre principale activité, faire en sorte que les différents services de l'État travaillent ensemble. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas évident, parce que souvent, dans les services de l'État ou certains ministères, ils ont déjà leur charge de travail, leurs attributions, et venir rajouter la lutte contre les dérives sectaires, ce n'est pas toujours évident. Mais, des fois, on a des succès, des fois, on a du mal. Par exemple, actuellement, je vous parlais d'industrialisation, on constate l'ouverture, par exemple, de centres de bien-être, mais liés à la prise en charge, par exemple, de patients atteints du cancer. Quand on fait des signalements aux agences régionales de santé, les agences régionales de santé, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, nous, de par les tests, on ne s'occupe que de ce qui est réglementé. Ça, c'est des centres qui ne sont pas réglementés, donc on n'a pas à s'en occuper. Et donc, ça nous pose un vrai problème. Et parfois, on passe par les services des impôts. Vous savez qu'Al Capone, le fameux gangster américain, est tombé pour ses problèmes fiscaux. Et donc, ça peut être une piste de travail pour nous. Mais c'est très, très difficile parce que là aussi, on nous oppose le secret fiscal. Mais voilà, c'est un travail de tous les jours. Alors, des fois, on a quelques succès. Et puis, la lutte, je vous l'ai dit, par les signalements au parquet, par les signalements aux agences régionales de santé, nous ne sommes pas un service de contrôle, nous n'avons pas de possibilité d'aller sur le terrain vérifier par nous-mêmes. Moi, je suis inspecteur, j'ai l'habitude d'aller faire des inspections dans les établissements de santé, je ne peux pas le faire parce que le décret de 2002 instituant la MIGILUD ne le permet pas. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Enfin, voilà, alors, ce que je veux dire également, c'est que la santé a toujours été au cœur de l'action des mouvements sectaires. Ça a toujours été la force d'entrée. Si je prends l'OTS, lors du temple solaire avec le fameux suicide de 74 victimes, Luc Jouret était médecin homéopathe. Et au départ, les personnes qui sont venues rencontrer Luc Jouret, elles étaient en recherche de bien-être. C'était des gens qui étaient qui voulaient donner un sens à leur vie. Et on sait où ça a mené. Ça a mené à un suicide collectif. Donc la dimension guérisseuse est toujours présente, y compris chez les scientologues, puisque quand vous rejoignez l'église de scientologie, on vous explique qu'il faut faire un travail de purification, qu'il faut prendre des produits, qu'il y a une cure à faire, etc. etc. Je rappelle que l'église de scientologie a été condamnée pour exercice illégal de la pharmacie. Je reviens sur l'OTS. Tout à l'heure, monsieur, vous parlez des débuts de sudation. Alors, nous avons retrouvé des membres de l'OTS. On se dit, ah non, mais l'OTS, c'est fini. Ben, ils sont toujours là. Nous avons retrouvé des membres de l'OTS dans un département du Nord, Val-d'Oise, qui se sont investis dans la formation professionnelle et donc qui ont monté un centre de formation. Si vous voulez voir ce centre, je vous invite à visionner l'émission Cache Investigation, où il y a un passage qui est consacré à ce centre. Donc, il y a des buts de citation. Et donc, le principe de ce centre de formation, c'est qu'on prétend pouvoir faire un travail sur le psychique des personnes par le toucher vaginal. Chercher l'erreur. Et c'est facturé 12 000 euros. Donc, ça fait cher le toucher vaginal. Enfin, je referme la parenthèse. Et donc, nous avons fait un signalement. Pour l'anecdote, comment on est arrivé à ce centre? Parce que les fondateurs du centre ont demandé des allègements fiscaux. Et les gens du fisc se sont interrogés sur le centre. Ils ont alerté l'inspection du travail. L'inspection du travail a débarqué sur place, a trouvé des huttes de sudation, et ils ont alerté la MIGILUD. Et donc, encore une fois, dans le cadre de la coordination de notre activité, nous avons mis tout ce monde autour de la table et nous avons fait un signalement au procureur de la République. Alors, toujours dans l'état des lieux, sachez que 75% de la population recourt au moins une fois des traitements complémentaires. Alors, quand je dis traitements complémentaires, ça va de la sophrologie au Reiki, en passant par la kinésio, en passant par l'acupuncture, enfin voilà. Si vous me dites d'où je sors le chiffre, c'est un chiffre qui est donné par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé qui précise dans l'un de ses rapports que les pratiques non conventionnelles représentent des centaines de millions de dollars. En France, il n'y a aucune étude qui est faite sur ce que représentent les pratiques non complémentaires. On a demandé à Bercy de réfléchir à une étude sur ce que ça représente, puisqu'aujourd'hui, il y a des centaines de pseudo-thérapeutes. Des écoles de formation, nous avons 1800 centres de formation qui sont liés à des mouvements sectaires, c'est un chiffre du ministère du Travail. Donc il y a 4000 psychothérapeutes autoproclamés. Je rappellerai plus tard que l'usage du titre est réglementé. 3000 médecins qui seraient liés à des mouvements sectaires, c'est un chiffre de 95. À mon avis, on doit être largement au-dessus. Et puis, il y a un cadre législatif et réglementaire favorisant l'éclosion de pratiques non conventionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un chacun peut inventer une méthode et former à cette méthode. C'est comme ça. Je veux dire, si on se met à interdire, ça a été rappelé, on sera très vite stoppé par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté de conscience. Donc, c'est très, très difficile de poser un cadre et d'interdire telle ou telle pratique. Et puis la santé représente 40% de l'activité. Chaque année, nous recevons 3000 demandes, de signalements. Alors ça va de qu'est-ce que le Reiki, ou voilà, j'ai ma mère qui a arrêté son traitement contre le cancer parce qu'on lui a conseillé telle ou telle méthode. Là, quand c'est des choses comme ça, on fait systématiquement des signalements au procureur de la République parce que nous considérons qu'il y a une mise en danger d'autrui. Toujours dans l'état des lieux. Alors, j'ai oublié de vous dire que, parce que cet après-midi, je ne pourrais pas malheureusement rester, j'ai vu qu'il y a une intervention sur les témoins de Jéhovah. Alors, sachez que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a une personne témoin de Jéhovah qui renonce à la transfusion sanguine. Donc, ça s'est passé à Clermont-Ferrand. La personne en est morte, elle avait 26 ans. Et donc, malgré l'assistance des équipes médicales, elle a perdu la vie. Et donc, pour moi, c'est une première, parce que d'habitude, on entend parler des refus de transfusion sanguine en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Là, c'est vraiment, on est vraiment confronté à cette question du refus de transfusion sanguine. Nous avons fait un signalement au procureur de la République, considérant qu'il y avait mise en danger et non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que, avec les témoins de Jéhovah, il y a ce qu'on appelle les comités de liaison hospitaliers. C'est des gens qui vont dans les services d'urgence et qui font pression sur le patient pour éviter la transfusion sanguine. Et ces jours-là, de ce que nous avons appris des médecins, c'est que les comités de liaison étaient présents et qu'ils ont fait pression sur cette jeune fille qui est décédée à l'âge de 26 ans, alors qu'on aurait pu la sauver. C'est ça qui est triste. Donc aujourd'hui, 250 appellations, donc kinésiologie, Reiki, libération des tuyrasses, énergologie. Je vous parlais de la montée en gamme des pratiques non conventionnelles. Moi, quand je suis arrivé en 2010 à la Mésilude, on commençait à parler d'énergologie. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est très, très répandue. Il y a des centres de formation, etc., etc. Sophrologie, ben voilà, c'est une méthode qui est largement utilisée dans les établissements de santé. Je rappelle que dans le code de la santé publique, vous ne trouverez jamais de référence à la sophrologie. C'est une technique qui n'est pas reconnue par les services de l'État, mais je veux dire, c'est presque le fait accompli. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde accepte l'idée d'avoir un sophrologue dans le service. La méthode SIVA, les constellations familiales, le channeling, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur. Alors, sur le channeling, par exemple, nous, on a eu un signalement d'un couple qui vient des Pays-Bas, qui fait du channeling. Donc pendant la séance, il y a à peu près une centaine de parents et la personne s'est spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes. Donc il y a une salle comme ça, les gens viennent avec leur enfant autiste, la personne met les mains sur la tête de l'enfant et communique avec une puissance dans l'au-delà et c'est facturé 100 euros. Et ça défile. Enfin, voilà, je veux dire, moi, je ne rejette pas la pierre. Hein. Je veux dire, moi, si j'avais un enfant autiste, peut-être que j'aurais essayé la technique. Mais on a fait un signalement aux élus pour qu'à l'avenir, on évite ce type de réunion publique. Encore une fois, c'est très, très difficile parce qu'il faut mettre en avant le trouble à l'ordre public. Les gens sont très, très procéduriers. Ils ont de l'argent, etc. Donc, le point commun de ces techniques, c'est qu'elles sont non éprouvées. Il n'y a jamais eu d'études scientifiques hein, pour démontrer leur efficacité ou leur innocuité. Vous ne trouverez jamais sur la méditation, personne n'a été capable d'avancer une étude ou un essai clinique. Sur la méditation, par exemple, on nous dit qu'elle est, que 80% des maladies sont liées au stress. Et je veux dire, comment on peut avancer un chiffre sans le démontrer? Sur le cancer, il y a certains pseudothérapeutes qui disent que le cancer est lié au stress. Vous savez qu'il y a eu des essais cliniques sur des souris qui ont démontré un certain lien, mais c'est trop facile de faire ce raccourci puisqu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte comme les gènes, le mode de vie, l'alimentation, les grossesses tardives, enfin voilà, il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est trop facile de dire que tout est lié au stress et qu'en luttant contre le stress, on peut soigner telle ou telle pathologie. Et puis vous avez des dizaines de produits. Monsieur Pachou, tout à l'heure, vous en avez montré quelques-uns. Et moi, ce que je veux dire, c'est que le point commun de tous ces mouvements, c'est quoi en fait? C'est finalement l'argent. Parce que les gens qui font de la méditation, ils ne le font pas gratuitement. Aujourd'hui, par exemple, sur la méditation, j'ai regardé, avant de venir, quelques sites internet, Facebook, etc. Il y a un véritable matraquage. Et ça me fait penser, vous savez, au tube. Quand il y a une nouvelle chanson ou une musique qui sort, au départ, vous ne l'aimez pas. Ça, quand vous l'entendez à la radio, vous dites « Ah, j'aime pas trop ». Et puis, il y a un matraquage. Matin, midi et soir, on va vous passer le même tube. Au bout de la cinquième ou je sais pas, au sixième diffusion, vous allez commencer à l'aimer. Et vous allez vous dire « Ah, finalement, j'aime bien ce morceau ». Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un matraquage dans les réseaux sociaux, à la télévision. Je ne sais pas si vous regardez une émission qui s'appelle Télématin. Et bien, Télématin, tous les jours, vous avez du matraquage. Donc, je veux dire... Moi, j'ai eu quelqu'un du CCMM qui m'avait interrogé en disant « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Écrivez au CSA. Vous payez la redevance télé. Vous êtes en droit d'écrire au CSA pour dire de quel droit on nous passe des choses qui sont dans les prouvées. » Donc, je vous dis un véritable matraquage. Et à la fin, vous dites « Ah, mais peut-être que. Peut-être que la méditation est finalement pas si mauvaise que ça. Et si j'essayais ?» Et c'est un peu ce qui se passe avec votre méthode. On parle de la méditation parce que c'est l'objet de ce colloque, mais c'est valable pour la kinésiologie. La kinésiologie, par exemple, est en train de faire son entrée dans l'établissement de santé ou la fasciathérapie. Alors la fasciathérapie, quand même, on a réussi à lui donner, lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et donc, grâce au guide santé, mais je peux vous dire qu'on a pas mal de procès en diffamation. Et donc, ça prend du temps, voilà. Alors, il faut faire deux distinctions. Sur les médecines complémentaires, l'acupuncture, le reculothérapie étant la version française de l'acupuncture, je rappelle que l'acupuncture est strictement réservée aux médecins, aux sages-femmes et aux dentistes. Si vous passez devant, un bâtiment où vous voyez acupuncteur, sans qu'il soit sage-femme, médecin ou dentiste, c'est l'exercice illégal de la médecine. Donc, et souvent, il y a de plus en plus, c'est une branche de la médecine chinoise, souvent les gens utilisent l'acupuncture sans avoir les diplômes requis. Sur les médecines alternatives, donc ce sont les médecines qui prétendent pouvoir prendre la place des médecines conventionnelles. Sur l'oncologie, par exemple, vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui, on parle souvent du docteur Hammer, mais vous avez beaucoup de gens qui prétendent pouvoir soigner là où la médecine conventionnelle échoue. Sachez que chaque année, il y a 900 000 personnes qui sont traitées pour un cancer. Et dans la même année, chaque année, il y a entre 350 000 et 400 000 personnes qui arrivent dans les établissements, dans les centres de lutte contre le cancer. Donc ça fait un flux extrêmement important et c'est un terrain de chasse pour les mouvements sectaires qui ont compris que la santé était un moyen d'approcher les victimes. Alors, vous avez une grande diversité du phénomène, donc ça va des mouvements comptant plusieurs milliers d'adeptes, avec des réseaux mondialisés. Hein. On a fait récemment un signalement sur quelqu'un qui fait de la reconnexion, qui est présent aux quatre coins du monde et qui a monté une véritable multinationale. Et puis vous avez une multitude de groupuscules ou de groupes de familles, et ceux-là, ils sont extrêmement difficiles à repérer. Donc, mais la finalité, c'est toujours la même, c'est l'argent. Et il y a trois choses de ce que j'ai pu observer, puisqu'on parle d'observation, de ce qu'on a pu observer à la Miviude. Les mouvements sectaires, c'est trois choses, en fait, ce qu'elle réclame. D'abord, l'argent. C'est le nerf de la guerre, c'est ce qui motive les mouvements sectaires, c'est leur raison d'être, l'argent. La deuxième chose, c'est le travail dissimulé. Quand vous n'avez pas d'argent, vous allez aller dans un ashram ou dans une organisation sectaire, on va vous demander de faire des choses gracieusement. Il y a beaucoup de signalements. Nous, on alerte l'inspection du travail. Et puis la troisième chose, c'est les faveurs sexuelles. On a beaucoup de signalements, souvent c'est des femmes qui nous disent, voilà, je suis passé par telle façon de bien-être ou telle retraite, etc. Et on a abusé de moi. Donc on fait un signalement au procureur de la République. Mais là aussi, c'est parole contre parole. Hein. C'est très très difficile de démontrer qu'il y a eu viol. Je ne parlerai pas des faux souvenirs induits, parce que je n'ai que pas beaucoup de temps. Mais alors, comment on fait pour savoir que, je ne sais pas, moi, face à par exemple quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il a été victime qui considère qu'il a été victime d'un mouvement sectaire. Voilà les critères que nous utilisons. Alors, d'où sortent ces critères? Ils ont été avancés et retenus par la commission d'enquête, la première commission d'enquête sur les sectes, à l'époque on parlait encore de sectes, en 1995, celle qui a dressé la liste des 173 mouvements sectaires. Je rappelle qu'il n'y a pas de liste. Pourquoi il n'y a pas de liste? Parce que il suffit d'être sur une liste, de changer de langue et vous sortez de la liste. Et donc depuis 2005, il y a une circulaire du Premier ministre qui nous demande de ne plus travailler sur la notion de liste. Et favoriser les critères d'analyse, ce sont des critères qui ont été pour la première fois réfléchis et avancés par les services de renseignement généraux, ce qu'on appelle aujourd'hui les services de renseignement territorial. Donc la déstabilisation mentale obligatoire, c'est-à-dire vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais faites en temps normal. Conseiller à une femme enceinte de consommer son placenta du bébé. On a eu un signalement à Grenoble, et donc on a fait un signalement. Et où, par exemple, vous conseillez de boire votre urine, parce que ce serait bon pour le fœtus, de préférence le matin. Donc, je veux dire, aujourd'hui, une personne censée, si on lui dit, tiens, je te conseille de prendre ton urine, ou je te conseille d'aller te prostituer, une personne censée ne va pas le faire, mais par contre, si elle est manipulée, si je l'amène à faire des choses insensées, grâce à la manipulation mentale, donc c'est un discours, hein, c'est toute une technique, et on peut reconnaître au gourou cette capacité justement de retourner des gens. Donc, le caractère exorbitant des exigences financières, j'en ai parlé, hein, c'est toujours l'argent, toujours plus d'argent, et sachez que même les personnes qui sont titulaires d'une allocation adulte handicapé n'y échappent pas. C'est-à-dire que personne n'y échappe. C'est-à-dire que vous soyez riche ou sans le sou, vous intéressez des organisations sectaires. La rupture avec l'environnement d'origine, hein, vous allez vous couper de votre conjoint, de vos enfants, etc. Moi, j'ai en tête le cas d'une dame qui souffrait de sclérose en plaques. Le pseudo-thérapeute a réussi à la convaincre que c'était l'origine de son mal venait de son mari qui lui a envoyé de mauvaises ondes. Donc, ce couple avait deux enfants. Et donc, du coup, il y a eu une scission au sein du couple. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était pour le pseudo-thérapeute, un autre enfant qui était pour le papa. Ils ont fini par divorcer. Entre-temps, cette dame a arrêté son traitement. Elle en est morte. Donc, la sphère est actuellement entre les mains de la justice, que nous avons fait un signalement au parti. L'endoctrinement des enfants, on le voit avec toutes les méthodes qui sont utilisées en destination à destination des enfants. Vous avez par exemple sur la kinésiologie un dérivé qui s'appelle la brain gym. Hier, j'ai eu un signalement du département de la Chalande sur une méthode dérivée de la facétérapie qui a réussi à faire son entrée dans un collège. Donc on alerte les services académiques, on alerte les services de police. Et puis vous avez des gens qui vont dans les ashrams avec leurs enfants. Et là, ça, c'est extrêmement préoccupant. Le discours plus ou moins antisocial, vous avez souvent la théorie du complot, hein. Le complot des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, le complot de la médecine conventionnelle. En France, il y a un recul extrêmement préoccupant, par exemple, sur la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su communiquer. Mais parce que les services de l'État, ils ont une communication verticale, très lourde. On n'est pas souvent assez réactif, il faut le dire. Alors qu'il faudrait plutôt une communication horizontale, ce que font les mouvements sectaires, puisqu'ils occupent tous les réseaux sociaux, ils sont présents par les petites affiches, ils sont présents dans les salons zen, etc., etc. Si vous allez dans un salon zen, vous n'allez jamais trouver les services de l'État. Donc voilà, c'est aussi notre point à faire. Les troubles à l'ordre public, avec des manifestations, avec nous, on a souvent devant les bureaux de la mairie Lune des gens qui viennent manifester sous nos fenêtres parce qu'on est considéré comme liberticide, parce qu'on est méchant, etc. L'importance des délais judiciaires, l'église de Scientologie a quelques casseroles. Et puis le détournement des circuits économiques traditionnels. Le principal, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est 30 milliards d'euros. Donc, il y a beaucoup d'argent à ramasser de ce côté-là. Et puis, la tentative d'infiltration des pouvoirs publics, principalement les établissements de santé. La formation, par exemple, des personnels qui travaillent sur les soins palliatifs ou qui prennent en charge les malades atteints du cancer sont devenus une cible privilégiée, mais pas seulement. C'est-à-dire que maintenant, même dans les entreprises, y compris celles du CAC 40, vous avez des gens qui viennent proposer des formations. Moi, j'ai en tête une infirmière que j'ai au téléphone qui m'a dit on a participé à une formation. Mais au retour, je ne reconnaissais plus mes collègues parce qu'elles étaient tout le temps en train de pleurer, parce qu'on a évoqué des souvenirs douloureux. Et ça déstabilise tout un service. Et in fine, ça peut déstabiliser l'établissement de santé. Donc il faut être extrêmement prudent. Et c'est pour ça que nous faisons un travail avec l'école des hautes études en santé publique, qui sont les directeurs d'établissement, pour les sensibiliser à cette question. Alors, pour autant, toute dérive thérapeutique n'est pas forcément sectaire. Je veux dire, il est très difficile, je l'ai dit, de démontrer qu'il y a dérive sectaire, mais c'est plutôt de la dérive thérapeutique. C'est-à-dire que vous allez voir un médecin qui va vous prescrire de la poudre à perlimpinpin, pour autant, il n'essaie pas de vous manipuler. Et de même, si vous allez voir, je sais pas moi, un kinésiologue ou un maître Reiki, que vous avez 70 euros parce que c'est la moyenne du tarif, à dépenser à Paris, c'est 130 euros, et si ça vous fait du bien, ben, tant mieux pour vous. Ce qui pose problème, c'est à partir du moment où on commence à vous dire que vos difficultés viennent de votre conjoint, que ça remonte à des souvenirs enfouis, etc., etc. Mais si vous faites une séance, je dis n'importe quoi, de sophrologie ou d'hypnose, et que vous repartez satisfait, il y a un effet placebo certainement, mais c'est votre liberté la plus absolue. On n'est pas là pour interdire toutes les pratiques non conventionnelles, c'est important de le dire. Ce qui nous pose problème, c'est la manipulation mentale. Alors, j'ai dit, les dérives sectaires en santé, c'est de trois façons, donc vous avez les méthodes et les appareils. Il y a une prolifération, une explosion d'appareils censés chasser les mauvaises ondes, apporter des ondes positives, etc. La formation et puis l'infiltration du système de santé. Alors, sur la méditation, je vous renvoie vers le rapport d'activité 2009. Donc, on a, vous voyez, ça remonte à quelques années parce que on avait déjà essayé d'alerter nos concitoyens sur la méditation. Plusieurs formes. Je ne m'étalerai pas parce que M. Pachot a fait une excellente présentation de l'état des lieux. Et puis vous avez de la méditation qui est liée au New Age. Nous, on a eu un signalement d'une gamine à laquelle on bondait les yeux et on l'a allongée pour la faire méditer. Et c'est les grands-parents qui nous ont alertés. Donc il y a forcément dans la méditation toujours une connotation spirituelle. Hein. Vous avez parlé de nébuleuse, de puissance invisible, de l'au-delà, etc., etc. Donc, ce qui intéresse les organisations sectaires, c'est de vous avancer des discours En fait, quand vous allez sur un site, ça ne veut absolument rien dire. Et pourtant, vous êtes accroché, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas un discours normé, mais ils ont cette capacité justement de pouvoir accrocher le lecteur. Et comme je l'ai dit, si vous êtes en période de fragilité, il y a de grandes chances pour que vous fassiez prendre par l'organisation. On parle de méditation laïque, là aussi M. Bachelot en a très bien parlé. Et souvent, ça fait partie d'un package. Aujourd'hui, les pseudothérapeutes, ils vendent des choses, ils sont multicartes. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va faire, par exemple, que de la méditation. Ça va être de la méditation associée à de l'hypnose, ça va être de la méditation associée à telle ou telle technique. Et donc, c'est souvent, plus ils sont multicartes, et plus ils ont de chances de capter quelques victimes. Mais c'est souvent incontournable hein, dans les escarcelles du gourou, parce que c'est, comme je l'ai dit, extrêmement à la mode, et c'est très très vendeur et très très porteur. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans la méditation, parce que c'est le truc à la mode, et ça serait presque ringard pour un DRH de ne pas faire de stage en méditation. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des normes, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas telle ou telle technique, c'est celui qui n'est plus à la page. Et donc, les entreprises se copient les unes les autres, mais c'est valable pour les établissements de santé. C'est-à-dire qu'un établissement de santé qui ne ferait pas appel à des formations sur la gestion du stress, sur tel ou tel état de mal-être ou de bien-être, ne serait pas à la page. Et c'est pour ça qu'on a fait un travail avec l'association qui gère les stages, on les a aidés à faire un cahier des charges, et on est extrêmement vigilant avec l'ANFH, donc la Fédération Hospitalière, pour qu'il n'y ait pas d'entrisme par le biais des formations professionnelles. En soi, je veux dire, en tant que méthode non éprouvée, il n'y a pas de raison de la stigmatiser. Hein. Je veux dire, on n'est pas, en tant que ministre, en tant que service du Premier ministre, nous, on ne délivre pas de bons et de mauvais points. Hein. On n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Encore une fois, nous, notre fil conducteur, c'est les critères que j'ai évoqués plus haut. Par contre, les points de vigilance, c'est quand la méditation prétend pouvoir soigner le cancer. Ça nous pose un vrai problème. Ou quand c'est assorti à des pratiques comme le respiratoirisme, vous en avez parlé, puis voilà, monsieur également vous en avez parlé. Et puis la prise en charge de la dépression en phase aiguë, et ça me fait penser à d'autres méthodes qui prétendent prendre en charge la dépression. Tout à l'heure, on évoquait les attentats de Nice, effectivement, mais on l'a vu également avec les attentats du Bataclan, où on a vu une armée de pseudothérapeutes vendre leur méthode et leurs services. Encore une fois, ce qui intéresse ces gens, c'est d'abord l'argent. Et ce qui est dangereux, je reviens sur les établissements de santé, c'est tout à l'heure, il y a une question sur les établissements de santé, en quoi c'est gênant, c'est la caution qu'on donne. C'est-à-dire que je fais de la méditation, je suis kinésiologue, je vais dans un service, mais vous vous rendez compte, c'est une caution énorme. Je mettrai sur mon site internet intervenant ou à tel établissement de santé ou tel service d'oncologie. Et donc c'est une caution. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bah finalement, si on l'a laissé rentrer, je ne sais pas moi, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris ou de Marseille ou ailleurs, c'est que c'est sérieux. Et donc c'est ça qui pose problème, c'est cette caution. Dans les méthodes de prise en charge de la dépression, vous avez une méthode qui soigne par le mouvement des yeux, voilà, le MDR, et sachez que sur le MDR, il y a une partie, la Haute Autorité de Santé reconnaît l'efficacité de l'MDR sur la prise en charge du stress post-traumatique. La difficulté, c'est qu'on prétend pouvoir tout soigner avec le MDR. Donc, nous, on a reçu la présidente de l'association MDR France. Donc, on lui a dit, d'abord, faites le ménage, parce que quand vous allez sur Internet, vous trouvez des gens qui font de l'MDR, qui font de la méthode Hammer, par exemple. Donc, voilà, il faut être extrêmement attention, le temps file. Je vais essayer d'aller vite. Alors, les raisons de l'engouement, discours soupçonné d'être influencé par les intérêts privés, hein, donc laboratoires pharmaceutiques, etc., Recul d'une confiance aveugle dans la science quelquefois impuissante ou défaillante. Malheureusement, sur les 900 000 personnes qui sont prises en charge, par exemple pour des problèmes de cancer, la médecine n'arrive pas à sauver tout le monde, même s'il y a eu, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. La recherche de solutions de la dernière chance, Steve Jobs, c'est l'exemple le plus parlant. Ces derniers jours, il était suivi par un pseudo-thérapeute qui lui conseillait un tas de régimes alimentaires à base de jus de carotte, etc. Malheureusement pour lui, ça ne l'a pas sauvé. Et puis, le souci de limiter la consommation des médicaments, en soi, ce n'est pas plus mal. C'est de la chimiothérapie, donc on ne peut pas être contre. Mais c'est le discours qui suit ça. Et puis, la quête de sens. Quand vous avez un cancer, c'est d'abord pourquoi moi. Et puis vous essayez de trouver une explication, et c'est là où il y a un risque de manipulation. Puis la place des affections de longue durée, vous savez, c'est les pathologies qui sont listées et qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, vous avez 18 millions de personnes qui sont en affection de longue durée. Et donc, qu'est-ce que leur propose la médecine? C'est des traitements sans fin, et les gens, ils ont envie d'être acteurs de leur santé. Puis ils se posent la question, moi je ne vais pas prendre des traitements à vie, et donc ils vont chercher autre chose. Et cette autre chose, il y a un risque avec le risque de manipulation mentale. Alors, toujours dans l'engouement, le désarroi lié aux accidents médicaux, hein, ça a commencé avec l'histoire du sang contaminé, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et encore une fois, on n'a jamais réussi, hein, les services publics, on n'a jamais réussi à être aussi bien communicant que les organisations sectaires qui inondent la toile par le discours sur la santé conventionnelle. Le rejet de la mécanisation, il se trouve que j'ai travaillé pendant quelques années avec l'Institut Curie, donc j'y allais régulièrement, soit à l'occasion d'acquisition d'équipements ou pour des réunions avec les directeurs d'établissement. Donc il m'est arrivé de passer dans les couloirs, de voir les patients, j'ai assisté à des séances de radiothérapie. C'est très mécanisé. Il n'y a aucune humanité. Je veux dire, vous êtes, enfin, c'est un malade, des fois face à presque une machine. C'est tant de minutes, et puis même vous avez pu le constater, quand vous allez voir un médecin, c'est quoi, 10 minutes, 15 minutes, et puis ça sera au suivant. Alors que les pseudothérapeutes, eux, ils vous écoutent. Ils ont du temps pour vous. Ils vous accompagnent, ils vous mettent à l'aise, ils vous valorisent, ce que ne fait pas la médecine moderne, même si beaucoup a été fait par exemple pour les malades atteints du cancer, mais on reste en deçà des attentes de nos concitoyens en matière de prise en charge psychologique. Ce qui est prévu par exemple pour la prise en charge sur le processus d'information de la personne qui a un cancer, sur l'accompagnement psychologique, sur les soins de support, beaucoup a été fait, mais par rapport à ce que représente la maladie en termes émotionnels, en termes de prise en charge psychologique, franchement, je veux dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Mais encore une fois, face à 900 000 patients pris en charge pour cette pathologie extrêmement dangereuse, enfin voilà. Et puis, la pensée magique, c'est face au stress, on a envie de croire à une méthode miracle, on a envie de croire qu'une autre voie est possible. Et ça, c'est aussi lié à notre société qui en communique de moins en moins, on se parle de moins en moins. Chacun est confronté chaque jour à des difficultés de la vie, et donc on a envie de s'accrocher à quelque chose. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont lire un bon bouquin, ça leur fera du bien, mais il y en a qui ont besoin d'être pris en charge par un pseudo-thérapeute. Et je peux vous dire qu'à la Miviludes, parce qu'on voit beaucoup de victimes, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit des gens extrêmement sensés qui arrêtent, d'abord cassent leur couple, arrêtent leur travail, se coupent de leur famille, c'est la descente aux enfers. Mais par contre, ces personnes restent convaincues qu'elles sont dans le vrai. Alors, les points communs d'entraîner une perte de chance, hein, forcément, d'être non éprouvé scientifiquement, j'ai dit, aucun essai clinique, efficacité, innocuité jamais démontré. La méditation, personne n'a été capable d'avancer un essai clinique, personne. Et à mon avis, ce ne sera pas demain qu'on nous proposera, enfin qu'on nous mettra en avant un essai clinique. Explication simple, voire simpliste à des processus complexes. Vous avez le cancer du poumon, c'est votre culpabilité de fumeur. C'est simple, ça ne mange pas de pain. C'est la méthode Hammer. Des diagnostics uniques se suffisant à eux-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, si je prends la médecine conventionnelle, quand vous allez voir un dermatologue, il va soigner vos problèmes de peau. Il ne va pas vous soigner votre souffle cardiaque ni votre problème d'hypertension. C'est le pseudothérapeute qui prétend pouvoir tout soigner. Donc, vos problèmes psychiques, mais également physiques. Et puis, soit réussir là où la médecine conventionnelle a échoué. J'en ai parlé avec, par exemple, la méthode d'Anna Steve Jobs. Donc, va vous valoriser, vous recommander d'acheter des appareils. Je suis désolé, je vais essayer d'aller vite parce que le temps avance. Et puis, une nouvelle vision du monde. On va vous parler de bandes cosmiques, de cycles lunaires, de dimensions vibratoires. Enfin, voilà. Tous ces discours que, monsieur, vous avez très bien évoqués et puis qui sont extrêmement efficaces. Je voudrais vous donner cet exemple sur comment on peut être manipulé et comment les mouvements sectaires ou les organisations sectaires font pour, à partir d'un site extrêmement neutre, extrêmement, j'ai envie de dire, positif. Ça s'appelle santé, nature et innovation. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai un petit problème, genre un petit saignement, je vais tout de suite sur Internet pour voir ce qu'on en dit, sur les forums, etc., etc., puisque Internet est devenu une formidable caisse de résonance. Donc, a priori, comment savoir si on a un cancer? Là, c'est, on parle du cancer du sein. Jusque-là, rien d'alarmant. Ça peut même être instructif pour savoir quels sont les symptômes, etc. Sauf que quand je vais rentrer sur le site et que je vais mettre à regarder les pages qu'il y a sur ce site, je tombe sur ce monsieur qui est le docteur Simoncini, qui est interdit d'exercer en Italie, qui fait des conférences en France et qui prétend pouvoir soigner le cancer avec du bicarbonate de soude. Alors, pour lui, le cancer, c'est des champignons. Mais j'aurais pu parler du docteur Scoli, j'aurais pu parler de Christian Flech, j'aurais pu parler d'un tas de médecins. Je vous ai dit qu'en 1995, on recensait 3000 médecins liés à des organisations, etc. Vous voyez comment, à partir d'un site neutre, a priori inoffensif, on se fait alpaguer. Vous êtes parti voir votre médecin, vous avez fait une prise de sang, des radios, on vous annonce un cancer. Vous allez sur Internet, vous redoutez la chimio parce que c'est extrêmement lourd à porter, c'est pas simple. Et vous tombez sur ça, il y a de grandes chances que pour vous disiez, pourquoi pas, peut-être que je vais essayer, peut-être que. Et finalement, ce serait peut-être efficace et ça m'évitera de me faire opérer ou. Voilà. Deuxième exemple, alors ça. C'est l'Institut, c'est le site internet de l'Institut National du Cancer. Donc c'est l'organisme public qui est chargé de coordonner les pouvoirs publics en matière de lutte et de prise en charge du cancer. Rien à dire, site officiel, reconnu, etc. Et regardez, donc en haut vous avez l'adresse www.e-cancer.fr, ok, rien d'anormal jusque-là. Et si devant e-cancer je mets le-cancer, et bien je tombe sur ce site. Vous voyez, on a juste rajouté un petit L là, à la place de E-cancer. Et je tombe sur toutes les méthodes qui sont vraiment, là, il faut le dire, sectaires. Là, on n'est pas dans du bien-être et de l'accompagnement, là, on est vraiment sur des méthodes sectaires. Et vous allez retrouver le docteur Hammer et le docteur Simoncini. Et tout ça pour vous dire que, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est. Voilà, c'est en faisant des recherches que je suis tombé sur cette. On est vraiment dans la manipulation, là. Je veux dire, plus manipulation, il n'y a pas. Donc, encore une fois, vous êtes. Et puis, on vous montre des images voilà, reposantes, des fleurs, des témoignages. On vous parle de positivisme, des statistiques. Alors, dans les statistiques, on vous expliquera que la chimiothérapie n'est efficace que dans 2,2% des cas. Donc, vous vous dites. Oh là là, moi je vais entamer une chimio, je vais perdre mes cheveux, je vais vomir, je vais. Non, non, moi je préfère encore la méthode cure de brosse ou d'autres méthodes. C'est vous dire que. Alors, je ne peux pas aller, je n'ai pas réussi à capter tout le truc, mais il y a des moyens pour payer, pour. Enfin voilà, on vous offre des stages, etc. Alors, identifier le risque page d'accueil présentant des images douces, comme tout à l'heure, etc. J'allais vite, livre d'or, vous avez toujours des témoignages. Hein. Des gens qui disent, ouais, c'était comme ça, c'était superbe, je ne peux que le conseiller, etc. etc. Le contenu des écrits dans le langage pseudo-scientifique, ça c'est ce tableau, on l'a fait en interne au sein de la Mévude et on l'envoie systématiquement aux ARS, parce que les ARS financent des associations, par exemple, de prévention de la maladie, et donc on leur dit, voilà ce qui peut alerter sur telle ou telle association. Termes comme énergie, mémoire cellulaire. Voilà, forme de l'organisation, c'est souvent des associations. Cible des personnels hospitaliers, enfin, voilà, j'en ai parlé, l'oncologie, les soins palliatifs. Voilà, donc, présentation de diplômes inconnus en France. Hein. Souvent, les gens disent, ouais, je suis diplômé de telle école aux États-Unis, je suis, voilà. S'il n'y a pas de diplôme d'État, sauvez-vous. Et dès qu'on vous parle, enfin, discours autour de vous, dès qu'on avance un discours pseudo-thérapeutique, n'hésitez pas à faire un signalement aux autres professionnels. Les 5 questions à poser, donc je passe très vite parce que vous retrouverez tout ça dans le guide de santé et dérives sectaires. Et puis l'action des pouvoirs publics, donc si vous avez un doute sur un pseudo-thérapeute, ou n'hésitez pas à appeler la délégation territoriale de l'ARS, qui a un fichier qui s'appelle ADELIS, c'est-à-dire annuaire de liste. Tous les psychothérapeutes doivent être enregistrés. Si la personne, on vous dit qu'elle n'est pas enregistrée, pareil, sauvez-vous. Sachez que le titre, l'usage du titre de psychothérapeute est réglementé. Grâce à l'action de la Mivilude, aujourd'hui, le directeur général de l'ARS peut suspendre un psychothérapeute, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, dans l'action publique, publication du guide santé et des risques sectaires, je peux en parler puisque j'en suis le rédacteur. Les partenariats avec les ordres professionnels, on a signé des conventions avec l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des kinés. Tout à l'heure, il y a un kiné qui est intervenu, des kinés qui font un travail formidable et qui, franchement, qui sont extrêmement courageux, qui prennent des positions, qui ont pris position, par exemple, sur la fascia thérapie, qui ont dit tout kiné qui ferait de la fascia thérapie serait exclu de l'ordre. Donc, création auprès du directeur général d'un groupe d'appui technique qui doit se prononcer sur les pratiques non conventionnelles mais également prometteuses. Vous pouvez retrouver les fiches qui ont été réalisées par le ministère de la Santé sur le site du ministère de la Santé. Donc, il y a des choses qui sont faites. Et puis, voilà, une affiche que nous avions fait avec l'Institut national du cancer qui était destinée au traitement miracle, y compris, enfin, particulièrement aux malades atteintes du cancer. On a eu beaucoup de mal pour financer cette campagne, mais on y est arrivé. Le problème, c'est que, il y a toujours l'oubli. Alors, ça a duré un moment et on aurait aimé qu'il y ait toujours une rediffusion de l'affiche. Le problème, c'est qu'on est confronté à la question des moyens. Ça coûte de l'argent. L'Institut national du cancer a accepté de le faire sur un temps, sur un budget propre. L'Institut n'a pas les moyens de rediffuser cette affiche, et il y a eu également des petits épisodes. Et puis le guide santé des risques sectaires, je vous invite à jeter un œil sur le guide. Vous pouvez le consulter, le télécharger gratuitement. Vous trouverez des conseils, vous trouverez un certain nombre de méthodes, comment reconnaître un pseudothérapeute, etc., etc. Voilà, si vous voulez nous écrire, vous avez notre adresse, notre numéro de téléphone. Surtout, n'hésitez pas. On répond systématiquement, même si des fois on peut mettre un peu de temps. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'avec ma collègue Chantal Gatignol, on répond, assez rapidement. Voilà, et j'en ai fini. Il ne me reste plus qu'à, encore une fois, remercier le GMPI et puis vous remercier de votre attention.